Bernard Méloa, vous êtes un créateur qui avait eu, au fond, en plus, une idée au départ, on pourrait dire, mais c'est peut-être le hasard, une phrase que Monod a rendue célèbre, le hasard et la nécessité, qui vous ont permis de faire des choses qui n'avaient pas été faites avant. Et qui seront difficilement imitables, parce que, bon, ou alors ça sera carrément un flagrant délit, car c'est très personnel.
Ça ne peut être fait que maintenant, et ça ne pourra plus être fait après moi, parce que ça vient des décharges. Hey. Et des décharges, il n'y en aura plus. Les écolos interdisent tout. Hey. Donc, ma sculpture ne peut être que de cette période-là, dans ce laps de temps-là, entre l'abondance et puis maintenant, quoi.
C'est-à-dire que ce sont, pour être maintenant précis, ce sont des déchets de la vie normale qui sont dans les décharges, et vous manque de moyens au début de votre vie. Voilà. Vous êtes dit, comme d'ailleurs d'autres qui ont commencé par chez les ferrailleurs,
j'ai hérité de Picasso, de César.
Tous ces gens-là, Tinguely faisait voilà. Ça aussi avec des pièces. Vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez osé vous attaquer à l'émail, c'est-à-dire les vieux pots de chambre, les bidets, les plaques de publicité en émail, enfin, tout ce qui est en émail, de couleurs vives.
Voilà, pour la couleur.
Et la couleur, vous dites, mais ouais. Comment vous avez fait, sans dévoiler vos secrets, parce que vous me direz que c'est la technique, mais quand même, en principe, le chalumeau éclate un peu l'émail, par définition.
Oui, c'est par ignorance. N'étant pas du métier, je ne suis pas soudeur, donc j'ai essayé. Alors que quelqu'un connaissant la technique se serait dit, c'est inutile, ça ne se soude pas, on ne peut pas. Oui. Et moi, je ne savais pas, j'ai essayé, ça a marché. Bien sûr, si c'était pour faire des containers, il y aurait des fuites, mais pour faire de la sculpture, c'est tout à fait suffisant. Oui. Et ça marche. C'est par manque de métier que j'ai pu le faire.
Mais alors, ça brunit, le chalumeau brunit l'émail, donc vous êtes forcé de le nettoyer après.
Ah non, ça oxyde au niveau des soudures, mais l'émail reste impeccable. Et c'est
les éclats qui se font éventuellement.
Éventuellement, alors là, je les comment.
Vous les mastiquez.
Comme les voitures.
Comme une voiture, et vous poncez éclats. Et tout.
Voilà, oui. Et puis je donne une petite retouche de peinture à cet endroit-là, mais c'est vraiment minime, et ça ne dure que 2 ou 3 jours, le temps des dilatations, et après, c'est stabilisé.
Alors vos sujets dans la vie sont aussi bien les oiseaux que des... Là pour le moment vous exposez, donc je l'ai dit, la vigne Bastille. Oui. Il y a des pièces monumentales, presque toutes sont remplies d'humour, je crois que vous aimez bien l'humour.
C'est le point de départ. Oui. Je pars du titre, je ne cherche pas le titre quand la sculpture est faite, j'ai le titre. Oui. J'ai le titre et je fais la sculpture, je cherche ce que je peux faire pour illustrer ce titre-là.
Oui. Alors, pour essayer d'être un petit peu précis pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas eu encore la joie de voir vos œuvres, bien qu'elles aient exposé, je crois que tout le monde, si on voit une de vos œuvres, on se dit, tiens, ça me rappelle un aéroport, ça me rappelle un endroit où j'ai...
Ça fait 15 ans quand même que je n'ai pas exposé à Paris.
Oui, donc là, il y a beaucoup de pièces rue de Charonne, et simplement, on dira un petit peu comment c'est fait. C'est-à-dire que vous, pour donner une idée, vous faites une armature comme l'équivalent d'un mannequin d'osier pour les couturiers.
Un dessin en 3 dimensions, oui. Une structure en fer à béton. Étant donné que le matériau que j'utilise, la tôle émaillée de récupération, je ne peux pas la travailler. Je l'utilise dans la forme qu'elle a. Si j'ai besoin de... Pour vous donner un exemple, si je dois faire la fesse d'un personnage, je suis obligé de chercher une cuvette qui a ce galbe-là pour cette partie-là.
Vous avez même trouvé une pièce qui ressemblait carrément à la tête d'un cheval.
Ah oui, le chat photo et Maury.
Oui, c'est ça. Donc il y a des pièces.
C'est tout à fait ça.
Bon, c'est tout de même assez étonnant. Et puis alors là, par exemple, sur cette bête qui est entre l'oie, le dodo disparu de l'île Maurice, là, il y a toutes ces pièces courbes comme ça. Ce sont des bords de casseroles.
Des casseroles, tout. Mais il faut que je cherche à la fois la forme, donc, et la couleur.
Oui.
Et il faut absolument que trouver les deux en même temps.
Alors vous partez d'une idée.
Je pars d'une idée, quelque chose qui m'agace ou qui... C'est de l'amour ou de la haine. C'est toujours... Il y a que ça qui...
Vous avez fait une statue de la liberté sur la haine.
Ah oui, ça j'ai fait. Cette statue de la liberté, c'était quand Kissinger a eu le prix Nobel de la paix, ça m'a paru énorme qu'on lui donne le prix Nobel de la paix.
Que c'est le Nobel, c'était l'inventeur de la dynamite.
Ouais.
Hein.
Oui, alors
c'est donc, je crois que c'est un retour aux sources.
J'ai fait une liberté dont le flambeau était un champignon atomique, et puis de la main qui tenait la loi, tient la colombe de la paix en lui serrant le
kiki.
Le kiki, oui. Donc il n'y a pas d'équivoque.
Absolument. Alors, comment l'idée, par exemple, d'une qui m'a frappé, oui. qui est Arthur.
Oui.
Elle s'appelle Arthur, alors ça m'a évidemment
concerné,
interpellé au niveau du vécu, comme oui. disent des gens un peu snob. Et là, c'est venu de quoi, par exemple, ce titre-là? C'est un petit oiseau superbe, oui, et il s'appelle Arthur.
C'est venu du macareux. Alors, MacArthur. Alors, ouais. c'est élémentaire. Hein.
Et là, il y a l'alterater, mater.
Ah oui, Ater le clone, oui.
Alors, ça, c'est des titres comme ça. Il y a aussi le Tchernobyl Bird qui est très explicite.
Ah oui, ça, ça a été juste au moment. Un oiseau mort avec une aile brûlée. Ça a été fait à la suite de comment. De Tchernobyl.
Alors, Jean-Pierre Lavigne, en ce moment, dans les œuvres exposées, il y en a une qui est La valeur de sabre. Mais il est étonnant parce que c'est un cimetière un peu. Enfin, c'est un terme, le sabre courbé de cavalerie, qui fait qu'il ressort dans le dos du mec, dans les lombes.
C'est atroce. Il avale son sabre, il se trompe de direction, le sabre ressort dans son dos, le sang coule et la flaque de sang est en bas derrière lui, qui le suit.
Et ça, c'était pour illustrer numéro 100. Je voulais avoir le mot 100, S-A-N-G, pour illustrer numéro 100 de la sculpture.
Le 100%.
Voilà, 100%.
Mais avec deux orthographes.
J'ai réussi à avoir une flaque de sang
au
pied de la sculpture. C'est une image de peintre, c'est pas une image de sculpteur, ça.
Alors, Bernard Mélois, il y a deux pièces, enfin, entre autres, il y a deux pièces majeures, on pourrait dire, rue de Charonne, là. Il y a une dame de dos, mais qui est face à un miroir, on voit aussi l'autre côté, comme d'ailleurs il y avait un merveilleux antiquaire qui s'appelait Nicolas Landau, qui présentait souvent les pièces chez lui avec un petit miroir derrière, et ce qui était très intelligent dans ses vitrines, parce qu'on voyait l'objet
des deux côtés.
Bon. Et là, il y a ça, et puis il y a une pièce au fond, comment s'appelle-t-elle?
L'ange de Wuppertal, qui est une pièce fantastique.
Je suis parti sur une idée de faire un ange.
Oui.
Mais comme il n'y a plus d'ange, j'ai fait un compromis entre l'aviateur, l'aile delta, l'ange, et puis en même temps, j'ai vu comment, au moment où je cherchais, j'ai vu Pina Bausch qui esquissait un pas avec des bottes en caoutchouc et un casque d'aviateur. Mmh. Alors, ça fait tilt, j'ai fait ça, et le titre est venu sur le moment de comment. L'ange de Wuppertal, comme elle est installée à Wuppertal, et Morphel de Sepport.
Alors, pour vous, là, on n'a pas le temps de tout dire, évidemment, mais qu'est-ce qui prime chez vous? Il y a l'humour, il y a l'émotion, la beauté est utile, mais ce n'est pas ce qui vient en premier pour
vous,
la beauté.
Non, je pense que c'est l'humour. C'est,
oui.
Et l'humour, mais malgré tout, avec l'émotion. Et l'humour permet de dire des vacheries enrobé de papier de chocolat, si vous voulez. Hein. Ça se voit pas du premier coup, donc ça me fait plaisir quelquefois que des vacheries soient vues sans qu'on les voie directement, enfin, au deuxième degré.
Alors vous commencez par les pieds, vous?
Toujours, oui, c'est ce qui tient
c'est
l'ensemble. Voilà,
et c'est ça qui vous permettra de faire l'équilibre.
Voilà.
Et puis vous montez petit à petit. Oui. Et est-ce que c'est vrai qu'à l'intérieur de toutes vos pièces, sauf une, il y a un cœur que vous enfermez avant de fermer tout.
Parce que comme je fais une structure très élaborée avant de poser les tôles en émail, quand la structure est terminée, pour moi, la sculpture, je vois la sculpture. Donc, pour qu'elle vive, symboliquement, je lui mets un cœur à l'intérieur. Mais alors, des fois...
Alors, vous signez, vous datez, le cœur aussi à l'intérieur.
Voilà. Mais quelquefois... il m'est arrivé de faire une sculpture sur Franco, par exemple. Dommage à Franco, j'avais fait.
Donc, alors, pas de cœur.
Dommage, comme dommage.
Il n'y a pas de cœur ni de cerveau.
Non, là, j'avais mis une croix gammée, je crois.
Carrément,
la noblesse.
Ça, c'est vraiment c'est le clin d'œil pour vous, alors.
Personne ne le sait, en fait.
Maintenant, tout le monde le sait. À partir de ce soir, les gens vont vouloir l'ouvrir, c'est ça qui est embêtant. D'ailleurs, il ne faudrait peut-être pas qu'ils le fassent.
Non, mais maintenant, ils font des petits scanners qui rentrent à l'intérieur.
Alors, il y a la couleur. Moi, je voudrais qu'on y revienne, parce que c'est vrai que quand on réfléchit, on ne sait pas si on aurait aimé tout ce qu'on voit dans les chefs-d'œuvre antiques, parce que tous les chefs-d'œuvre antiques étaient colorés, même terriblement colorés, puisque Pompéi et Herculanum, quand on retrouve des choses, on voit que tout est parti de Lascaux, mais je veux dire que les statues polychromes
les cathédrales
étaient peintes, je crois.
Ça, ce serait mon rêve, de revoir la cathédrale de Reims peinte telle qu'elle était.
Oui, on n'a aucun document, c'est uniquement par la tradition
orale. Si on voit de près, on voit
des
petits pigments, on le sent.
Oui.
Et donc, ça, j'aimerais bien le voir, mais ils n'oseront jamais faire
ça. Ça, je pense qu'ils n'oseront jamais, parce que justement, voilà, typiquement, ça surprendrait tout le monde.
Voilà, alors que ça manque. Maintenant, je traite la sculpture en couleur depuis une trentaine d'années, et maintenant, une sculpture qui n'est monochrome. Il manque quelque chose pour moi. Il manque quelque chose.
Alors, Bernard Mellois, vous devez avoir une joie intense, parce que vous n'êtes pas le seul. Et moi, j'ai déjà reçu certains de vos confrères et peut-être amis, mais qui se disent en riant que ils ont mis sur la cheminée du bourgeois qui achète ces pièces des pots de chambre.
Ah oui, oui.
Et que c'est drôle de penser qu'il y a des gens qui viennent dans la galerie, qui se retournent, qui regardent, qui disent ah, c'est parce qu'en plus c'est très beau. Donc, mais ils caressent éventuellement puisque la sculpture se caresse des yeux et de la main, il caresse une belle beauté calipige, et c'est le pot de chambre de...
Ça, c'est une satisfaction intellectuelle.
Ça doit être très drôle. Alors maintenant, ça se fait de plus en plus comme ça. Bon, il y a combien de pièces dans la galerie?
Il y a 27 pièces, mais ce que j'aimerais dire quand même, parce qu'il y a des choses que je crois qu'il faut dire.
Eh bien, dites-les.
Parce que je vis maintenant, je l'ai présenté Bernard Mellois il y a 15 ans, il y a 10 ans, etc. Donc c'est un travail que j'aime. Mais là, je vis dans cette exposition depuis une semaine, comme dans un jardin magique. Ces animaux, toutes les couleurs, ces personnages, etc.
Quand j'y étais avant-hier.
C'est un espèce de jardin extraordinaire, presque un hommage à M. Trenet. Enfin, si Trenet était là, il pourrait venir.
Il aimerait ça,
d'ailleurs.
Et
puis surtout, ce qui est merveilleux, c'est que beaucoup de gens viennent, et chaque fois, les gens arrivent, ils disent « Ah, c'est génial. Ah, c'est formidable. » Ils me disent « Ah, c'est gai. Ah, on aime. Ah, on est content. » Et je trouve formidable que l'art, pour une fois, apporte de la joie et non pas simplement une réflexion angoissée. Est-ce que je suis intelligent? Est-ce que je suis bête? Est-ce que c'est vraiment beau? Est-ce que je m'y connais? Est-ce que je ne m'y connais pas? Là, on s'adresse à tout le monde. Et ça, c'est formidable, parce que l'art, c'est fait pour communiquer avec le plus grand nombre dans une forme de bonheur qui est très importante. Ça, je voulais le dire.
En plus, vous êtes breton, ce qui est très important pour moi. Marcel Pagnol, qui n'était pas breton et qui avait des théories très curieuses sur les marins bretons, d'ailleurs. Mais aimez ce que vous faites. Pierre Seguers, qui est un homme que j'admirais beaucoup.
Mon premier acheteur.
Voilà, qui vous aimait. Alors, on peut peut-être préciser deux, trois choses. C'est que vous n'êtes pas, je le disais tout à l'heure, copiable. Vous n'êtes pas imitable facilement. Bon. Et puis en plus, vous ne pouvez pas faire de multiples, à part quelques exceptions de bronze, puisque vous avez travaillé le bronze aussi. Mais avec ce matériau-là, vous ne pouvez pas.
Absolument pas.
Donc pièce unique.
Absolument.
Et le seul défaut, inconvénient, mais qui en même temps est une force peut-être pour votre vie, c'est que vous ne travaillez pas vite. Ça doit vous demander un temps fou, une pièce.
Ben, je travaille sur une petite pièce, je travaille un mois. Sur des grosses pièces, 4 mois, 9 mois, la Statue de la Liberté, j'ai travaillé 9 mois dessus.
Oui.
Et là, c'est 28 ans que je fais cette sculpture-là, et j'en suis au numéro 190.
Ah oui, donc ça, c'est...
Ça fait pas une grosse production.
Est-ce que vous avez la possibilité, intellectuelle, de mener deux pièces ou trois pièces de fond?
Ah non,
pas commencer.
Je ne peux absolument pas.
Et vous êtes arrivé d'en abandonner?
Jamais. Jamais, parce que, étant donné que c'est tellement long, que je ne peux pas me permettre d'arrêter, parce que j'aurais déjà perdu 2 mois, 3 mois, et si la perfection n'était pas au bout, enfin, si j'étais pas totalement satisfait, j'aurais l'impression d'avoir perdu 3 ou 4 mois de ma vie. Donc, je vais jusqu'au bout, je défais, je refais, mais je ne peux faire qu'une chose à la fois. Même de venir à Paris, passer la journée à Paris, le lendemain, il faut que je travaille pas forcément dès le lendemain.
C'est rare de vous avoir à Paris. Hein. Là, il y a 3 heures de temps, vous étiez chez vous.
Un rat des champs.
Oui. Alors, est-ce que vous aimez qu'on vous voit travailler, non? Ou ça vous gêne?
Ça me gêne, oui. Me gêne. Je ne sais pas.
Vous êtes un solitaire en famille.
Voilà.
Oui.
Caché. Vivons heureux, vivons cachés. Voilà.
Comment vous aimez qu'on appelle vos les sculptures, mais si on dit que ce sont des jeux de construction, ça vous amuse ou pas?
Ça ne me fait rien.
Ça fait rien.
Non, je suis un sculpteur classique en fait.
Vous avez entendu des bêtises prononcées sur votre œuvre comme ça de temps en temps? On a cette joie quand on est dans un vernissage de temps en temps.
Non, pas vraiment. Les gens pensent que j'ai des moyens techniques énormes, que j'ai des fours.
Ah oui, que vous faites vous-même le matériau.
Vu la taille, ils pensent que j'ai des fours énormes pour faire les mailles. Enfin, ils n'imaginent pas immédiatement que c'est récupéré, quoi. Et ça me fait plaisir, en fait.
Et vous préférez le fond que la forme, finalement, aussi, quand même?
Ah, évidemment.
De loin.
Évidemment. Je préfère l'être au paraître.
Ouais, ça se sent. Les références du passé, enfin, et vous aimez, vous connaissez d'une part, et vous aimez les grands aînés, ce qu'il y a avant vous?
Ben, oui, certainement. Il y a Rodin juste avant, puis un peu avant, et encore, il y a
Praxitèle.
Entre les deux, il y a Michel-Ange.
Oui. Alors, est-ce que vous avez le temps de voir les autres? Est-ce que vous vivez en ermite?
Je vis en ermite et en autarcie un petit peu. J'ai tellement peur d'avoir des réminiscences et de les sortir involontairement que je n'ai jamais mis les pieds au Louvre.
C'est pas vrai.
Si.
Vous pouvez y aller maintenant, c'est gratuit le premier dimanche.
Ah, mais avec ma carte, je peux rentrer quand je veux.
Je blague. Non, ça c'est bizarre quand même.
Si, parce que j'ai vraiment peur de subir des. Enfin, les influences, de toute façon, personne n'est né tout seul. Et puis, les idées sont dans l'air, mais malgré tout, par exemple, j'ai fait une maternité quand j'attendais ma deuxième fille. Et c'était une femme assise et le ventre s'ouvrait et on voyait le bébé à l'intérieur. Et dans un kiosque à Paris, dans un Historia ou quelque chose comme ça, je vois une vierge du 15e qui s'ouvrait avec un Jésus.
Un petit enfant Jésus assis dans l'intérieur du ventre.
C'est ça. Eh bien, ça m'a bloqué pendant 3 ans pour faire cette sculpture-là. Parce que je me suis dit, elle a été faite. Et c'est, je ne veux pas la refaire. Et puis, au bout de 3 ans, je me suis dit, après tout, je suis stupide parce que ce ne sera pas la même sculpture. Et puis, et en fait, je l'ai faite. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ça m'a bloqué pendant. Et je ne voudrais pas faire quelque chose qui a déjà été fait. Parce que si quelqu'un l'a fait, est bien fait, ce n'est pas la peine de venir derrière. Il ne faut pas faire des remakes.
Bernard Mélois, avec le peu de pièces que vous avez proportionnellement au boulot que vous faites, vous avez réussi à garder des œuvres de différentes époques, un petit peu. Vous pouvez avoir une dizaine, quinzaine de pièces à vous.
Qui sont chez moi, qui sortent jamais en exposition.
Donc celle-là,
ça fait partie de la famille.
La rétrospective. Ouais. Donc on peut, pour conclure, dire que si vous aviez été riche au départ, vous ne feriez pas ça.
Ah, certainement, il ne faut pas démarrer riche pour avoir des idées. Hein.
Parce que là, vous auriez pris du matériau noble.
Moi, j'aurais fait le bronze, j'aurais fait du marbre.
Vous seriez plus parmi les autres.
C'est ça, oui, certainement. Je suis très content d'avoir été très pauvre.
Oui.
Puis je le suis encore, d'ailleurs. Je ne sais pas si je serai riche un jour.
Si vous vendiez vos œuvres. Tiens, à propos, est-ce qu'on peut se permettre de dire la fourchette à peu près de
qu'il
y a de trois multiples,
de prix.
Il y a un petit rhinocéros multiple. Et puis, il y a des petites pièces.
Oui, ça va de 4000 pour les zooplats qui sont drôles,
oui,
qui sont étonnants, de 4000 à 220 000 francs, mais pour des pièces qui font de 2 mètres 30 de haut, 1 mètre 80 d'envergure, enfin bon, qui sont des pièces complètement monumentales.
Qui sont de toute beauté, c'est jusqu'à
jusqu'au 9 mars.
Et puis vous serez à Strasbourg aussi.
On présentera également à la foire de Strasbourg quelques pièces. À la fin du mois et au début du mois de mars.
Et c'est à quelle adresse?
27 rue de Charonne, près de la Bastille. Nous sommes ouverts samedi de 11h à 19h, autrement du mardi au vendredi de 14h à 20h. Et ce rendez-vous, bien évidemment.
C'est le côté.
Et surtout, on tient à accueillir les gens.
Hein. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.